Chers amis de Radio Présence, nous nous retrouvons dans la lecture du livre des juges et nous venons de commenter l'épisode de Gédéon qui avait remporté la victoire sur les ennemis d'Israël avec une toute petite poignée d'hommes, ce qui montre que les moyens humains ne sont pas toujours principaux dans la mesure où la confiance en Dieu règne et est la plus importante. Et donc tout est stérile, c'est la leçon un petit peu de cet épisode, tout est stérile, tout est décevant, tout est insuffisant en tout cas si Dieu n'y est pas. Par contre, une pauvreté réelle de biens humains ou une âme de pauvre au milieu de biens humains laisse le cœur respirer vers Dieu. Et la qualité essentielle des amis de Dieu est cette liberté de cœur à l'égard de tout ce qui n'est pas Dieu. Ce n'est qu'avec ces amis-là que Dieu peut opérer des merveilles, ni lui, ni eux seuls, certes, mais ensemble. Et avec Dieu, les juges, dont nous lisons les exploits, ont fait des prouesses comme les apôtres après eux, ou comme la petite sœur Magdeleine de Jésus, elle était petite sœur de Jésus, du père de Foucault, en notre temps. Privée de tout moyen humain, elle entreprend vers la quarantaine une fondation qu'elle porte depuis longtemps dans le cœur, mais que sa mauvaise santé rend impossible humainement, c'est de même pour Mère Teresa. Or, Dieu, maître de l'impossible, selon l'expression du père Charles de Foucault, le père de Charles de Jésus, va opérer une magnifique floraison de petites sœurs à partir de cette misère. Non une misère fermée sur elle-même, mais une misère ouverte sur la toute-puissance de Dieu. Voilà celui dont nous parlions la dernière fois, et maintenant nous allons, dans cette conversation et sans doute dans la suivante, parler d'un autre héros, Jephté, et qui est une sorte de héros cornélien avant la lettre, comme nous allons le voir. Longtemps donc, Israël connut une certaine paix, mais peu à peu les idoles se firent séductrices et le peuple de Dieu se mit à servir les Baals et les Astartés qui sont autant d'idoles. Ainsi que, comme dit le texte des Juges au chapitre 10e que nous lisons maintenant, les dieux d'Aram et de Sidon, les dieux de Moab, ceux des Ammonites et des Philistins. Et tout nom de peuple que nous connaissons quand on fréquente un petit peu la Bible, nous le savons bien. Pendant 18 années, les Israélites éprouvèrent la honte et la misère de l'oppression en raison de leur infidélité. Comme à l'accoutumée, cette situation critique ramène spontanément au cœur des pécheurs l'air de la complainte, le cri de la lamentation. Et cette fois, Dieu veut marquer le coup en manifestant sa lassitude et en ironisant sur les dieux impuissants. Quand des Égyptiens et des Amorites, des Ammonites, des Philistins, quand les Sidoniens, Amalek et Madian vous opprimaient, et que vous avez crié vers moi, ne vous ai-je pas sauvé de leurs mains? Mais vous, c'est toujours le leitmotiv, vous m'avez abandonné et vous avez servi d'autres dieux. C'est pourquoi je ne vous sauverai plus. Allez, criez vers les dieux que vous avez choisis, qu'ils vous sauvent, eux, au temps de votre détresse. À nouveau, les Israélites confessent leurs péchés, font amende honorable, s'efforçant d'attendrir leur Dieu. Et voilà ce qu'ils disent. « Nous avons péché. Agis envers nous comme il te semblera bon. Seulement, aujourd'hui, délivre-nous. » Vous voyez, ils ne perdent pas de temps, ils essaient de gagner du temps. Et « Peu importe les châtiments de demain, se disent-ils, si nous sommes délivrés aujourd'hui. » Cependant, ils se montrent dans l'espèce cohérents dans leur attitude repentante en faisant disparaître de chez eux des dieux étrangers et en servant, entre guillemets, le Seigneur. Nous avons souvent souligné dans les épisodes précédents que Dieu ne résiste jamais à un vrai repentir, même s'il semble extorqué par des situations critiques. Et le texte exprime cette constante divine en des termes forts. Alors, le Seigneur ne supporta pas plus longtemps la souffrance d'Israël. Supportera pas. Dieu ne prend jamais plaisir à la souffrance des siens. Il la permet parce qu'elle est souvent le seul moyen de provoquer la conversion des pécheurs. Il la supporte autant et plus que nous ne la portons, et dès qu'il peut déceler la moindre marque d'un retour du cœur, sa miséricorde et son amour s'émeuvent. Littéralement, il est pris d'impatience, dans le texte hébraïque, il est pris d'impatience à l'égard du malheur d'Israël. C'est alors qu'apparaît Jephté. Jephté, un vaillant guerrier, est l'homme choisi par le Seigneur pour relever son peuple humilié. Son nom seul dit sa mission. Yifta, en hébreu, signifie « il ouvre », Yiftach. Et, ou bien « il libère » ou « il délivre ». « Il ouvre », c'est le sens premier, « il libère », « il délivre », c'est le sens des dérivés, mais bien, bien clair. Le sujet sous-entendu de tous ces verbes est bien sûr Dieu lui-même. L'élu de Dieu vérifie à nouveau les prédilections divines pour tous ceux qui sont humainement privés de moyens. Jephté est loyal, il est généreux, qualité que nous retrouverons en David, et fils d'une prostituée. Il porte avec lui l'ignominie de sa naissance, ce qui lui vaut d'être exclu de sa parenté. Comme le sera David, il devient le chef d'une bande de marginaux. Donc ses compatriotes savent bien faire appel à lui quand leur sécurité est menacée par les Ammonites. Il accepte de venir les secourir, de venir à leur rescousse, à condition que la victoire acquise, il devienne leur chef. Et voilà donc comment se présente notre héros cornélien dont nous continuerons l'histoire très bientôt.